Vous écoutez, on lit pour vous.
Pute, une insulte sexiste qui a la dent dure. Un texte d'Ismaël Oussadine, paru le 17 août 2024 dans Le Devoir. Chez nos cousins les Français, pute et son dérivé putain sont devenus des termes passe-partout, le second désignant moins souvent une attaque à la personne. Le vocable, apparu durant le Moyen-Âge, a traversé les siècles avec un si grand succès qu'il est utilisé aujourd'hui à toutes les sauces. Il permet même d'exprimer des émotions aux antipodes les unes des autres, comme la déception ou l'exaltation. « Oh putain, c'est beau! Et quel imbécile, putain! » Dans un livre à la fois drôle et pointu, titré tout bonnement « Pute », la spécialiste d'histoire de la langue française, Dominique Lagorgette, souligne d'ailleurs qu'il y a très peu de mots dans la langue de Molière qui peuvent être prononcés par pratiquement tout le monde et dans presque toutes les circonstances. La professeure de sciences du langage à l'Université de Chambéry, établissement qui accueille dans ses murs le seul laboratoire de recherche en Europe consacré à l'injure, s'amuse ainsi à disséquer l'usage de cette grossièreté langagière polysémique et qui renvoie aux travailleuses du sexe et que l'autrice qualifie de véritable « couteau suisse ». Son étonnante persistance sillonne les époques, s'imprimant durablement dans l'inconscient collectif. Et puis, on apprend avec stupéfaction que l'insulte « pute » et l'animal « putois » partageraient une origine étymologique commune du latin « putidus » qui signifie « sale ». De la saleté physique à la saleté morale, il n'y a qu'un pas. La table est mise pour un ouvrage franchement captivant et qui se lit comme une exploration linguistique caustique sur les représentations culturelles des femmes à travers une flopée d'expressions, parfois fleuries et de synonymes connexes. Il en existerait plus de 600, rien que dans la langue française, allant de « tapin à salope » en passant par « ribaude »,« grasse »,« cocotte » ou « bitch ». Tous racontent à leur façon la misogynie et la stigmatisation, mais aussi les tabous et les changements de mentalité. Même si l'autrice, également membre honoraire de l'Institut universitaire de France, traque avec précision les sens et les significations du mot en constante évolution, elle en rappelle sa portée brutale et péjorative. Certes, les mots d'une langue changent et se transforment, mais il reste que leurs caractéristiques intrinsèques demeurent. Bien sûr, le regard sur les mœurs a beaucoup évolué au fil du temps, mais n'oublions pas que la violence de genre, elle est bien vivante, soutient-elle. Car le mot « pute » et sa cohorte de synonymes sont utilisés comme autant de brûlures verbales à l'encontre de toutes les femmes. Au-delà de la femme de mauvaise vie, comme on disait autrefois, il y a un terme genré, les accusant de tous les maux et de toutes les répulsions. La pute, c'est la personne qui trahit ou bien celle en qui l'homme ne peut pas avoir confiance. L'essayiste mentionne que la langue française dévalorise la femme d'une manière presque systématique. Il n'est, par exemple, pas rare de voir qu'un terme sans connotation au masculin prend soudainement une connotation avilissante ou sexuelle au féminin. À ce titre, l'autrice cite les paroles du groupe de musique Fatal Bazooka. Un gars, c'est un jeune mec, et une garce, c'est une pute. Un coureur, c'est un jogger, et une coureuse, c'est une pute. Tout est dit. C'était pute, une insulte sexiste qui a la dent dure, un texte d'Ismaël Oussadine paru le 17 août 2024 dans Le Devoir.
Ce silence qui en dit long sur notre communauté. Une chronique de Nicolas Vandal, paru le 27 août 2024 dans le magazine Fugue. Je me souviens encore de ma première parade de la Fierté Montréal. J'avais 22 ans, fraîchement sortie du placard, encore un peu maladroite dans cette nouvelle identité que j'apprenais à porter. Lors de cette édition en 2013, j'ai eu l'incroyable privilège d'être l'un des invités d'honneur pour mon engagement contre l'intimidation. Ce jour-là, je me trouvais au cœur de la parade, debout sur mon cortège, entouré d'une communauté qui était devenue la mienne. Les drapeaux arc-en-ciel flottaient dans le vent et la musique battait au rythme de nos pas. C'était une explosion de vie, de couleurs, de célébration. Puis, soudain, au milieu de cette euphorie, les tambours se sont tus, les voix se sont éteintes et le silence est tombé. C'était comme si le temps s'était suspendu, flottant dans l'air chargé d'émotions. Moi, qui venais à peine de découvrir la communauté LGBTQ+, j'étais loin de connaître toute l'histoire, tous les sacrifices, toutes les luttes qui avaient rendu ce moment possible. Cette minute de silence m'a forcée à affronter une réalité que je connaissais peu, à comprendre que cette joie que nous partagions n'était pas née de rien. Elle avait été forgée par le sang, la sueur et les larmes de ceux qui avaient combattu avant nous. Aujourd'hui, à 35 ans, je pleure encore chaque année lors de ce moment de recueillement, parce que je sais maintenant que sans ces luttes, je ne serais peut-être pas là. Je pense à ces militants qui ont donné leur vie en refusant de se taire face à l'injustice. Je pense à ceux qui ont souffert et sont partis trop tôt à cause du VIH, de la lesbophobie, de l'homophobie, de la biphobie et de la transphobie. Et c'est pourquoi je continuerai à pleurer, à honorer cette minute de silence, parce qu'elle nous rappelle qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous devons continuer à marcher, la tête haute. Vous comprendrez donc ma frustration lorsque, lors de la dernière parade, j'ai entendu des gens dire que cette minute ne servait à rien, qu'elle gâchait l'ambiance, qu'il valait mieux se concentrer sur le positif et laisser de côté ses sombres souvenirs. Ces mots m'ont percuté avec une violence indescriptible. Comment peut-on dire cela? Est-ce que 60 secondes, dans toute cette effervescence, sont vraiment trop demandées pour honorer la mémoire de nos disparus? Ne pas être pleinement au courant des luttes du passé est une chose, mais vouloir volontairement mettre de côté notre mémoire collective en est une autre. Minimiser cette minute de silence, c'est fermer les yeux face aux sacrifices qui ont rendu cette parade possible. C'est comme danser sur les tombes de ceux qui ont payé le prix ultime pour que nous puissions célébrer librement. En faisant abstraction de ce moment, nous risquons de transformer notre parade en un simple carnaval de divertissement, déconnecté des luttes qui ont jalonné le chemin vers notre visibilité et nos droits. Ces luttes, oubliées ou reléguées à de simples notes de bas de page dans l'histoire par certains, sont pourtant au cœur même de ce que signifie être LGBTQ+, aujourd'hui. Montréal, avec ses rues pavées d'histoire, a été le théâtre de nombreux combats pour nos droits. Des lieux comme le fameux Trux ont été des bastions de résistance contre la répression policière. À une époque où simplement aimer était un acte de défiance, ces endroits ont accueilli des âmes courageuses qui ont osé vivre leur vérité. Chaque fois que nous marchons sur Sainte-Catherine, nous foulons le sol où tant d'autres ont lutté pour que notre existence ne soit plus criminalisée, mais célébrée. Cette minute de silence est aussi un rappel de la fragilité de nos acquis. Nous vivons dans un monde où nos droits, bien que légitimement obtenus, ne sont jamais complètement garantis. Les événements récents dans le monde montrent que les droits peuvent être remis en question, réduit ou même retiré. Le silence de cette minute n'est donc pas qu'un hommage, mais aussi une alerte, un signal pour rester vigilant, pour continuer à lutter, à défendre ce qui a été si durement gagné. En fin de compte, le respect de cette minute est une manière de montrer que nous ne tenons pas pour acquis les droits et les libertés que nous avons. C'est une déclaration de gratitude envers ceux qui ont ouvert la voie, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. En honorant leur mémoire, nous nous engageons également à continuer leur combat pour un monde plus juste et plus inclusif. Alors je vous pose la question. Pouvons-nous vraiment avancer sans nous rappeler d'où nous venons? Avons-nous le droit de célébrer notre liberté sans honorer ceux qui ont lutté pour elle? Il est peut-être temps pour certains de se poser ces questions, de réfléchir à l'importance de cette minute de silence, non pas comme une perte de temps, mais comme un acte de connexion avec notre histoire, avec ceux qui ont tant sacrifié pour que nous puissions aujourd'hui marcher avec fierté. C'était ce silence qui en dit long sur notre communauté. Une chronique de Nicolas Vandal, parue le 27 août 2024 dans le magazine Fugue.
Exit les chevaux, bonjour l'électrique, un texte de Jenny Gross du New York Times, paru le 26 août 2024 dans la presse. Bruxelles. Ça a commencé avec des remarques de touristes furieux. Puis, depuis quelques années, les commentaires virulents étaient devenus quasi quotidiens. Les gens criaient « honte » à Thibaut Dantine, un exploitant de calèche de Bruxelles. « Il y a 10 ans, cela n'arrivait jamais », raconte M. Dantine, qui se décrit comme un amoureux des chevaux. Mais à la fin, c'était tous les jours. Épuisé par les accusations de cruauté envers les animaux, M. Dantine a décidé de vendre ses 5 chevaux et d'utiliser le produit de la vente pour acheter 2 voitures électriques conçues pour ressembler à un premier modèle de véhicule électrique mis au point dans les années 1830 par l'inventeur Robert Anderson. En juin 2024, Bruxelles est devenue la première capitale européenne à proposer des visites quotidiennes en calèche électrique. M. Dantine, le seul exploitant de calèche de la ville, affirme qu'il n'a aucun intérêt à devenir l'ambassadeur d'un mouvement visant à interdire les calèches tirées par des chevaux. Néanmoins, sa décision place Bruxelles dans les rangs d'un nombre croissant de villes du monde qui ont décidé d'éviter ces calèches, soucieuses du bien-être des chevaux. À Montréal, elles ne peuvent plus circuler depuis le 31 décembre 2019, à la suite d'une décision du conseil municipal. Une fois que M. Dantine a vendu ses chevaux à des habitants de la campagne voisine, la ville a décidé qu'il était temps de passer à autre chose. Elle ne délivrera plus de nouveaux permis, même si elle n'a pas officiellement interdit les voitures hippomobiles. Les choses changent et nous devons l'accepter, explique Philippe Clause, bourgmestre de Bruxelles, lors d'une entrevue à l'Hôtel de Ville, un bâtiment situé sur la Grand Place, dont la construction remonte au 15e siècle. « Nous essayons, dit-il, de trouver un équilibre entre le respect des animaux et la découverte d'une ville ancienne avec de vieilles traditions. » D'autres villes ont ressenti la même chose. Ces dernières années, les villes de Prague et Barcelone ont interdit ou limité les promenades en calèche. À Prague, des promenades en calèche sont toujours proposées, même si elles ont été interdites, a déclaré un représentant de la ville. Aux États-Unis, les autorités de Chicago ont voté l'interdiction des calèches à partir de 2021 après Salt Lake City, Key West et Palm Beach, en Floride, selon People for the Ethical Treatment of Animals, l'Association de défense des animaux, également connue sous l'acronyme PETA. Le cas new-yorkais. New York, où l'industrie des calèches existe depuis plus de 150 ans, a résisté. L'année dernière, un conducteur de calèche a été accusé de cruauté envers les animaux après qu'un cheval, Ryder, s'est effondré dans une rue très fréquentée du centre de Manhattan en août 2022. L'incident a ravivé les appels d'associations de défense des animaux, d'habitants, de célébrités et de politiciens favorables à l'interdiction de ce secteur d'activité. Un projet de loi visant à remplacer les calèches tirées par des chevaux par des versions électriques, présenté au Conseil municipal de New York, n'a toutefois pas abouti. Robert Holden, membre du Conseil municipal de New York qui, en juin 2024, a réintroduit la loi Ryder, un projet de loi visant à interdire les calèches à New York, a déclaré qu'il était impératif que New York suive l'exemple de Bruxelles et d'autres villes. Le pire endroit pour les calèches est Manhattan, car il est surpeuplé, dit-il. Il n'est toutefois pas optimiste quant à l'adoption du projet de loi. Il faudra qu'un autre cheval s'effondre et meure, ou qu'un cheval en liberté blesse quelqu'un, pense-t-il. Theodora Zglimbea, directrice de la campagne de PETA, avance que l'utilisation de chevaux pour des promenades en calèche dans les villes est abusive et inutile. Il y a des ambulances, des feux d'artifice et toutes sortes de bruits forts. Et des accidents se produisent tout le temps, énumère-t-elle. Il n'y a tout simplement plus besoin de faire cela. Prévisibilité accrue. M. Dantine ne regrette pas d'avoir adopté ce changement. Après 2 mois, les affaires sont florissantes. Certaines personnes disent « Oh, c'est dommage, c'est moins charmant qu'un cheval », explique M. Dantine. Mais les touristes sont aussi nombreux à s'inscrire pour des promenades en calèche électrique que pour des promenades en calèche tirées par des chevaux, et M. Dantine n'a plus à payer les frais élevés liés aux soins des chevaux ni à s'inquiéter de trouver des guides touristiques multilingues ayant l'expérience des chevaux, explique-t-il. Avec la hausse des températures à Bruxelles, M. Dantine explique qu'il devait annuler un nombre croissant de visites chaque été parce qu'il faisait trop chaud pour les animaux. Désormais, grâce aux calèches électriques, il peut fonctionner tous les jours. M. Dantine prévoit même d'acheter une troisième voiture en 2025. Ce mois-ci, des touristes se sont rendus sur la Grand Place, au centre de Bruxelles, pour prendre des photos des 2 voitures électriques qu'ils possèdent désormais et se sont inscrits pour des visites de 30 minutes qui coûtent 70 euros, environ 105 dollars canadiens, et comprennent des visites au Manneken Pis et au Palais de justice. De l'autre côté de la Grand Place, les officiels se promènent dans une calèche tirée par des chevaux qui n'est plus utilisée que pour les célébrations officielles du Mayboom, une tradition annuelle qui remonte à 1308. Ayob Al-Marzouki, qui visitait Bruxelles depuis Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec sa femme et ses enfants, a déclaré que les calèches ajouteraient sans aucun doute à l'atmosphère de la Grand Place. Lorsque l'on parle du XVIIe siècle, du XVIe siècle, etc., cela est lié aux chevaux, aux guerres et à d'autres choses, raconte M. Al-Marzouki, un fonctionnaire. Il a néanmoins dit qu'il préférait la promenade en calèche électrique qu'il a faite à Bruxelles aux promenades en calèche tirées par des chevaux que sa femme et lui avaient faite à Vienne et à Bombay, en Inde. Il dit avoir été heureux de ne pas sentir l'odeur des chevaux pendant la promenade. De plus, dans une ville comme Bruxelles, avec ses rues étroites et pavées et ses collines, monter et descendre, c'est trop lourd à porter pour les animaux, soutient-il. Sa fille, Hind Al-Marzouki, âgée de 13 ans, préfère aussi la voiture électrique. Elle fait le lien entre le passé et l'avenir. C'était « Exit les chevaux, bonjour l'électrique », un texte de Jenny Gross du New York Times, paru le 26 août 2024 dans la presse.
L'amour de la planche n'a pas d'âge. Un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 5 août 2024 dans Le Devoir. Les athlètes olympiques ont de quoi impressionner avec leurs habiletés physiques hors du commun. Soumis à un entraînement intensif, ils atteignent un haut niveau à un très jeune âge pour certains. Même si ça semble difficile, il n'est pas impossible de s'initier à un sport qui nous fascine à l'écran ces jours-ci, à l'occasion des Jeux de Paris. Pour les adultes, ça peut même être une excellente idée, de s'y mettre comme de s'y remettre. Il n'y a pas d'âge pour le skate. Parlez-en à Mike Lavoie. Le sportif de 60 ans est l'un des fondateurs d'un des premiers clubs de planche à roulettes du Canada. Comme lui, plusieurs vétérans ont pris une pause au sortir de l'adolescence pour ne retrouver la dose d'adrénaline que bien des années plus tard. Les dizaines de skateparks, tout neufs construits aux quatre coins du Québec dans les dernières années, contribuent beaucoup à cette reprise de vigueur. Mike Lavoie n'avait que 27 ans et des médias le qualifiaient déjà de « vieux de la vieille ». Sa bande d'amis originaires de cette île a fondé le plus vieux club de skate au Canada, en 1980. Le Devoir n'a pas trouvé plus ancien. On n'avait aucune structure, aucun endroit pour skater. Mais on avait des revues pour voir en photo les tricks, raconte-t-il. Tout était à construire à l'époque. C'est de ses propres mains qu'il a dû construire le parc de ses rêves. On a toujours été comme une famille, à bâtir des rampes et à faire des places à skater. Parce que pour les villes, ça n'existait pas, les skateparks. Ce n'était pas un sport, c'était une mode. Ce n'était pas officiel. Pourquoi elle nous aurait donné un parc si c'était underground? Il quitte son patelin à la sortie de l'adolescence. Le manque d'espace adapté à Sherbrooke, sa nouvelle ville d'adoption, a raison de sa pratique. Pas de sa passion. Lui qui fait partie des planchistes les plus old school du Québec, il est tout de même plus âgé que Tony Hawk, le célèbre planchiste américain de 56 ans. Ce n'est qu'une fois déménagé à Montréal que Mike Lavoie reprend son élan. À un moment donné, c'est tout tombé. Je me suis retrouvé tout seul. Mais, maniaque comme j'étais, je me suis construit une rampe dans ma cour, relate-t-il. Cette rampe un peu incongrue dans la métropole attire l'attention de skateurs montréalais férus de nouvelles structures à rider. Une nouvelle bande se forme et, depuis, roule un peu partout sur l'île. Ses adeptes voyagent même en Floride ou en Californie pour ce sport. Mike Lavoie a beau vieillir, rien ne l'empêche de rouler encore fréquemment, même avec une vilaine blessure et un cardio un peu plus fatigué. Jamais sans ses protections, cela dit. Il y a quelques années, je suis tombé et je me suis cassé la hanche solide. J'ai eu un bon 7 mois à vivre avec ça. Et quand j'ai recommencé à skater, c'était pénible. Le prix à payer pour rider est plus élevé. Et l'autre aspect de la vieillesse, ce sont tes responsabilités. Après ma fracture de la hanche, ma blonde m'a dit « Si tu te blesses une autre fois en skate, ce n'est pas moi qui vais faire ton infirmière. Tu te débrouilleras. » Ça te fait réfléchir un peu, ça. Mais ce n'est pas assez pour m'arrêter. J'aime trop ça. De nouveaux parcs, de vieux adeptes. Les parcs de planches montréalais recevaient des tomates il y a juste 10 ans pour leur mauvaise conception.
l'asphaltage rugueux, des transitions bosselées et des bols conçus pour des fabricants de piscines ont longtemps mis à mal la détermination des planchistes. Cette époque est désormais révolue. Les planchodromes élaborés par des skaters ont poussé partout à Montréal dans les 4 ou 5 dernières années. Verdun, La Salle, Ahuntsic, l'excellent parc olympique, la liste est longue. Idem en région. En effet, Saint-Georges en Beauce, Victoriaville, Magog et même des villages de l'Abitibi ont ou auront bientôt un parc tout neuf. Ce renouveau, le Québec le doit en partie à ses vétérans comme Evan Thompson. Le Montréalais originaire d'Halifax a participé à la conception du parc de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, dont l'ouverture est prévue l'an prochain. Je dis que je fais ça pour les jeunes, mais je le fais en fait pour moi, lance en riant dans sa barbe grisonnante le vétéran de 38 ans. Le Devoir l'a rencontré sur la rampe du parc de Dorval, le plus récent des parcs de Montréal, ouvert en juin dernier. Ici, il y a une section pour débutants, une zone intermédiaire et une autre plus avancée. On peut rouler sans entrer dans la trajectoire des autres. Les gens qui font des parcs maintenant ont de vrais designs. Le flow, le parcours et les obstacles sont tous ajustés. Adepte du sport dans sa jeunesse, il a abandonné comme plusieurs autres les kickflips quand il a atterri dans la vie adulte. Il a repris sa vieille planche lors des heures perdues de la pandémie. Les skateparks étaient alors un bon endroit pour ceux qui voulaient sortir de chez eux en toute quiétude. La rénovation du parc du coin l'a certainement incité à se relancer dans ce sport extrême. Des parcs comme ça, ça fait une grosse différence, confirme-t-il. Les descentes commencées en hauteur, ça aide quand les jambes poussent moins qu'avant. Les parcours de transition, moins axés sur les acrobaties, encouragent une pratique allégée en choc, plus douce pour les articulations vieillissantes. Le sport a vieilli, mais n'en est pas moins cool, selon lui. Plus de réchauffement et plus de calcium lui permettent de rouler sans crainte. Peut-être a-t-il oublié quelques trucs avec l'âge, mais pas les façons de tomber. Ça, je m'en souviens. C'était « L'amour de la planche n'a pas d'âge », un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 5 août 2024 dans Le Devoir.